18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien C'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. Au programme de votre quotidienne, nous allons écouter Gilda Java qui va nous parler de sa BD, et bah justement il est directement dans nos studios. Gilda Java, du coup tu es un illustrateur brestois, et très récemment tu as sorti un roman graphique publié aux éditions Nouveau Monde intitulé La Fortune de Poutine avec Yvonique De Noël qui était au scénario. Déjà bonjour.
Bonjour.
Gilda, je vais me permettre de faire un petit résumé du roman avant toute chose. Donc le roman retrace l'histoire de la Russie et de Poutine à partir de la chute du mur de Berlin jusqu'à la mort de Navalny et en passant par son temps au KGB en rentrant jusque dans son intimité. Pour citer Yvonique De Noël dans une interview du Parisien, c'est montrer la façade respectable entre guillemets nationaliste et patriote de Poutine et de démontrer qu'en réalité ce n'est qu'une grosse affaire de fric. C'est rentrer dans l'alcôve et montrer un truc moins reluisant. Il faut que l'on arrête aujourd'hui de dire que c'est un chef d'État. C'est quelqu'un qui a mis la main sur un État et ses ressources pétrolières et gazière, et c'est sans doute le plus grand prédateur économique de l'histoire. Alors c'est un avis très tranché tout de suite sur Poutine, on pense que ça va, en tout cas moi je pense que ça va donner la note du roman, mais peut-être déjà est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur cette présentation ?
On peut vraiment dire ça, par exemple sur la guerre en Ukraine en ce moment, l'objectif était de bombarder les champs de blé.
Ouais.
Et de devenir, pour la Russie, le premier exportateur de blé. Donc rien qu'avec cette petite parenthèse sur l'Ukraine, on comprend que l'objectif n'est pas simple, n'est pas aucunement idéologique, elle est surtout pécuniaire, quoi. Et de trouver des moyens de pression grâce à l'argent.
Et alors j'aimerais qu'on reparte sur la genèse du livre avant qu'on puisse le remettre dans son contexte et que peut-être ça va donner aux auditeurs et auditrices l'envie d'en apprendre plus. Donc comme je l'ai dit, du coup tu es illustrateur brestois, tu as travaillé sur de nombreux projets en tant qu'illustrateur et Yvonique De Noël du coup est historien et spécialiste du renseignement et auteur de romans qui sont toujours dans le même domaine. Donc là pour le coup on peut citer le livre noir de la CIA, les espions du Vatican. Donc toujours dans ces affaires-là un peu cachées, si je puis dire. Et de ce que j'ai pu lire sur internet, Yvonique s'était intéressé à ce sujet dans les années 2000, mais sans aboutissement. Et quand le conflit russo-ukrainien a éclaté, il a décidé de remettre son travail sur la table et de plancher sur cet ouvrage. Il a voulu toucher un public plus large. Comme il le disait dans un article du Télégramme, et c'était là que l'idée du roman graphique lui est apparue, et c'est à ce moment-là que vous êtes mis en relation. Est-ce que c'est bien ça ?
Alors, on a été mis en relation par Tarek, qui est un graffeur, le créateur de Paris Toncar, en fait, voilà, qui travaille aussi avec l'éditeur Nouveau Monde. Et Tarek m'a appelé, puis il m'a dit, tiens, est-ce que ça te dit de plancher sur un projet BD ? Je te mets en contact avec Yvonique. Et Yvonique, on a discuté au téléphone. Alors au début, il se demandait si mon style allait correspondre ou quoi, parce qu'il voulait quelque chose d'assez satirique. Et moi, c'est vrai que j'avais un bagage plutôt réaliste en bande dessinée. Et puis, on a fait les premières planches, et surtout, on a pris un objectif en référence de films, Le Parrain et Scarface. La couverture, quoi.
Ouais.
Et pour raconter cette histoire et surtout sur certains passages en fait où on a la transformation de Poutine en mafieux petit à petit.
Ouais.
Et
c'est là-dessus, je voulais rebondir un peu plus tard, mais oui, il y a vraiment cet aspect-là de mafia sur fond de politique, quoi.
Ouais.
Ça a l'air d'être quand même un thème qui est pas mal utilisé dans des séries aujourd'hui, en Amérique surtout, des séries américaines, mafia et politique, ça intéresse beaucoup.
Il y a eu la série The Offer il y a pas longtemps sur l'origine du parrain, du film Le Parrain, qui était assez intéressante sur les coulisses et le rapport avec la mafia. Et puis, bon, on a la série Les Sopranos, on a... Et puis, en politique, on a eu The Americans, qui était une bonne série très intime sur justement l'espionnage.
Ouais, House of Cards était pas mal aussi,
ouais.
Là-dessus, à ce stade, ouais.
Surtout, ouais, le rapport à la réalité après.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le projet et ce qui t'a poussé à le rejoindre dans cette aventure, du coup?
Au début, j'étais pas si chaud que ça de faire une bande dessinée sur Poutine, dans le sens où j'avais un peu peur de... des rapports à la politique, justement. C'est-à-dire, ça peut très vite devenir caricatural. Mmh. Et donc, de s'attacher au parcours de l'argent et de voir la transformation, ça m'a plu. Puis bon, un de mes films favoris, c'est quand même Le Parrain. Donc, à partir de là, on avait ce regard-là, quoi.
Ouais.
Sur, et avec certains passages qu'on pouvait très vite faire le miroir entre les films, justement, de gangsters. Et donc cet aspect-là, ouais, me plaisait beaucoup.
Et alors, pour revenir sur le roman, selon certaines sources, la fortune de Poutine s'élève entre 150 et 250 milliards de dollars. Pour donner un ordre d'idée, Bernard Arnault, considéré comme l'homme le plus riche du monde actuellement, possède une fortune de 205,5 milliards de dollars. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas de chiffre exact, du coup.
Non, il a beaucoup de prête-noms.
Okay.
Il y a aussi tout un réseau qui a été monté, la fuite des capitaux en Occident. Donc il y a plein de comptes en fait qui ne sont pas attribués à Poutine, mais qui au final font partie de sa fortune.
Mm-hmm.
Il y a aussi tout ce qui est immobilier, puisqu'on parle de 8 villas qui coûtent plusieurs milliards d'euros. Et des trains, des avions, des yachts. Enfin, si on cumule rien qu'en biens, on doit s'approcher, ouais, des 100 milliards. Donc après, il y a tout ce qui est autre, entreprise, les parts de Gazprom. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a travaillé sur la bande dessinée, en fait, tout est disponible pratiquement sur YouTube. Par exemple, il y a des scènes... On n'a pas eu besoin de chercher, elles sont là. Quand ils demandent aux oligarques de reverser la moitié de leur fortune, c'est filmé.
Ah oui.
Et on a la ressource. Là, on a juste mis pratiquement tout bout à bout. Et après, il y a bien sûr la recherche d'Ivonik qui a rappuyé, qui a trouvé plein de petites choses et ainsi de suite, tout son travail de recherche. Mais sur le fil, en fait, on avait quand même cette ce mafieux. Enfin, le visage du mafieux qui était déjà là, qui était disponible pour tout le monde.
Et c'est là aussi le rapprochement du coup avec le côté intime, on en a parlé juste avant l'interview, c'est que des comptes appartiennent à ses filles, c'est bien ça?
Alors, ses enfants, ses filles, il y a aussi Ibrahimovic qui en tient une partie, il y a les anciens mafieux de Saint-Pétersbourg aussi, enfin, c'est assez complexe et en même temps... assez simple, on peut deviner très simplement à qui appartient l'argent au final. Quand il décide de reprendre des biens à des mafieux, c'est pratiquement une conférence de presse. Il n'a pas besoin d'autre chose pour s'accaparer et pourtant, ça passe crème. Donc on a des ressources, par exemple, sur tous les biens de la Wagner en Afrique, les échanges entre les diamants et pour participer, enfin, les échanges de biens matériaux, de pierres précieuses, là, en ce moment. Tout ça, ça va dans la poche de Poutine. Faut pas se leurrer, ça va directement dans sa poche. Les Russes n'en voient pas la couleur, donc...
Mais pour le roman, je l'avais dit très rapidement, mais on suit du coup l'histoire depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à Navalny et les événements récents en Ukraine, sans que ce soit le nerf du récit, de ce que j'avais compris. Mais du coup, le chapitrage, c'est comme ça, c'est le fil historique et la construction de son empire et de maintenant, ce qu'il est Poutine, quoi. C'est bien ça.
Voilà, ouais, avec le petit côté satirique, par exemple, quand on commence à Dresde, on a affaire à deux... On a l'impression de voir Pulp Fiction avec deux personnes qui font des coups, des montages, qui font chanter des hommes politiques, et qui se baladent d'hôtel en hôtel avec des prostituées pour faire chanter des banquiers, des hommes politiques, et ainsi de suite. Et petit à petit, on se dirige vers Saint-Pétersbourg et on remonte comme ça jusqu'à Moscou. Et on voit comment, en fait, il s'engouffre dans le système et il détourne pour son profit.
Ouais, c'est comme le disait Yvonique, du coup, il s'est emparé de ce pays. Et d'ailleurs, il a pu dire aussi, Yvonique, qu'il a travaillé pendant plus de 4 ans, 80% de matières bibliographiques et des enquêtes ouvertes, et 20% d'anecdotes et d'entretiens inédits grâce à ses sources. Alors, qu'est-ce qu'il entendait par ses sources, pour le coup? C'était les renseignements secrets de ce que j'ai pu lire, mais là, éclaire peut-être
il
mal.
Il a travaillé pas mal sur justement les espions du KGB, donc il avait pas mal de renseignements, il a pas mal de contacts avec des journalistes qui ont travaillé sur le sujet, Alors, indirectement, oui, il a des contacts avec des gens opérationnels. À partir de là, il avait des petites anecdotes qui sont sur, par exemple, les rendez-vous avec Berlusconi, les entretiens téléphoniques, les offs de Sechin et de Medvedev en discussion, enfin, des choses comme ça, qui sont réelles, un peu grossies pour la bande dessinée, mais... C'est du véridique. Donc ouais, c'est un peu flippant de voir le cynisme, en fait.
Et bah justement, là, c'est là où je voulais t'interroger. C'est, comme c'est un roman, on peut se demander aussi la part de fiction dans le récit. Est-ce qu'il y a des épisodes qui sont romancés, ou est-ce qu'on peut dire que c'est quand même comme traité de manière comme un reportage, comme un documentaire?
Alors, il y a des... Moi, il y a une scène, en fait... Que j'aime bien, c'est la... Et là, ça... On a été la chercher dans le journal de... Enfin, Yvonique a été la chercher dans le journal de Eugène Fonda, qui est à un dîner avec Poutine. Et pendant la soirée, le dîner se fait interrompre par Sechin, je crois. Parce que sa femme a subi un attentat de la part de la mafia de Saint-Pétersbourg. Et là, en fait, Poutine donc se lève, le prend... et décide de continuer le repas avec Eugène Fonda. Donc c'est une source qu'on a trouvée dans le journal de Eugène Fonda, qui met mine de rien, quand tu le mets bout à bout avec la scène de l'attentat, tu te dis, mais il est resté dîner. Donc c'est sa femme et ses deux filles qui ont été... Et là, il fait juste après le repas, il rejoint ses filles, les emmène en sûreté, les emmène à l'aéroport, et elles partent en sûreté, et sa femme reste à l'hôpital. Et ben justement, là, c'est là qu'on rentre dans le registre de la dramaturgie, c'est comment on va transformer ce passage-là où il prend conscience pratiquement, enfin, dans notre récit. Est-ce que c'est là où, dans la réalité, c'est justement là où on a la part de fiction, où on s'approprie quelque chose et on en fait un petit drame. Et là, pour moi et pour Yvonique, on était sur le passage du parrain. Exactement à peu près la même scène que quand Michael Corleone décide de venger son père. Il prend acte qu'il va devenir un parrain à ce moment-là. Là, on a pratiquement, quand il décide des représailles sur la mafia de Saint-Pétersbourg, il prend la stature de parrain.
Ouais.
Et on a un changement. Donc là, on a pris énormément de liberté sur l'interprétation graphique. On prend plus de temps, mais on trouvait ce passage très intéressant.
Et justement, là, pour rebondir sur ce que tu dis... vos deux rôles, en tout cas, toi, tu étais... Sur le papier, tu es illustrateur, Yvonique était au scénario, mais est-ce que l'un et l'autre allaient influencer le travail de l'autre, ou est-ce que toi aussi tu prenais part dans le scénario, comme lui pouvait prendre part dans l'illustration?
On a travaillé, sur la première partie, on a travaillé à distance, et sur la deuxième et troisième partie, on s'est réunis, il est venu à Brest... On a fait le storyboard ensemble, où là, on a vraiment un mélange qui s'est opéré. Et la troisième partie aussi, je suis venu à Paris et on a commencé à travailler ensemble sur le storyboard. Parce que d'un point de vue narratif, c'était important. Ensuite, il y avait les événements qui se passaient en direct. On avait la mort de Prigogine. Et aussi, à un moment, quand il remonte, donc il a fallu qu'on parle de ces scènes-là. On a appris en janvier que Prigogine était venu à Moscou discuter directement avec Poutine. Il a fallu qu'on le remette dans le récit. Et la mort de Navalny. Donc, on était obligé d'avoir ce mélange et d'être très réactif en fin de compte et d'avoir une malléabilité voilà, pour pouvoir jongler avec les pages vers la fin parce que à un moment on s'est posé la question hein, quand est-ce que ça va s'arrêter l'actualité parce que là ça commençait vraiment à s'enchaîner et puis je pense que là les événements internationaux ont fait que Poutine est un peu mis en retrait mais bon on est sûr que dans 2 ou 3 mois ça va revenir et il va être très présent et on aura encore un récit pratiquement qui va s'installer. Et puis il y a un deuxième aspect aussi, c'est que ce genre de récit, en fait, on pourrait penser qu'il le prend, il pourrait le prendre mal, mais pas du tout. En fait, ça fait partie de son, de ce qu'il renvoie comme image à l'international et il a ou en France ou ainsi de suite. Et c'est sa construction de mythe. Lui, il va sortir le récit idéologique pour la Russie. Mais l'histoire du mythe Poutine qu'il a envie de se construire, elle est plus dans cette réalité-là. En fait, ça ne l'intéresse pas trop, les articles et ainsi de suite. Par contre, la construction de son mythe, oui, ça l'intéresse beaucoup.
Ah, un peu un culte de la personnalité, quoi.
Oui. Y avait Navalny qui avait sorti la vidéo sur ses maisons, par exemple.
Ouais.
C'est assez impressionnant. On n'a pas du tout affaire à un homme politique quand on voit la construction de ses maisons. Y a un théâtre à l'italienne qui a été construit, il y a un peep show, un casino à l'intérieur d'une villa. C'est pas, on n'est pas dans un registre. Il va inviter beaucoup de monde, non. Il a vraiment construit un mini château, une sorte de Disneyland pour lui, quoi, à sa mesure.
Et là, je trouve que c'est encore plus évocateur quand on parle de fortune de Poutine que cet exemple-là, quoi.
Surtout que ça s'est passé quand il a commencé les constructions de ces villas. On était en pleine crise économique en 2009. Donc le monde s'écroulait et lui construisait des villas avec des dorures en or et une piscine qui fait je ne sais plus combien de mètres, c'est impressionnant. Un étalage de luxe, c'est indécent quand les Russes à ce moment-là étaient en pleine pénurie alimentaire.
Et alors, pour revenir sur ta bibliographie, du coup, sur les œuvres que tu as pu illustrer, on peut remarquer que tu as pris part à différents styles d'histoire. La première que l'on peut trouver, c'est la Seconde Rédemption, c'est bien
oui.
Ça ça, c'était en 2007. Pour résumer rapidement, du coup, c'est l'histoire de Linda qui décède suite à un accident de voiture avec son conjoint. Elle rejoint les cieux, mais redescend sur Terre avec pour but de sauver la vie d'un autre homme, Stéphane, qui travaille sur une machine capable d'envoyer des messages à travers le temps. Donc c'est un scénario très fantastique et macabre et qui a, pour le coup, mis à côté de la fortune de Poutine. Ça n'a pas trop de rapport. Mais peut-être un style de prédilection ou est-ce que c'est... Ce livre-là, du coup, c'est en 2007, donc ça remonte peut-être un peu.
Ouais, je change beaucoup de style. J'ai commencé par faire des illustrations de jeux de rôle sur des... Donc, on était dans le fantastique. Je suis passé à la BD. Mais alors là, par contre, il y avait plus un rapport avec Les Ailes du Désir de Wim Wenders, où j'arrêtais pas de faire des rapprochements graphiques avec Wim Wenders. Et en fait, ça m'amuse de changer de style. C'est quelque chose dont... rester sur le même style, ça aurait tendance pratiquement à pas m'endormir, mais justement à plus me stresser qu'autre chose.
D'accord. Mais toujours en gardant cet aspect réaliste, comme tu disais au début, quoi.
Oui, il y a quand même un petit côté comme ça qui ressort. Après, je pense que tu vas continuer la biblio, mais je passe sur Alexandre Le Grand avec David Chevel et Michel Le Galli, où là, on est dans l'ultra réaliste. Là c'était bien costaud à dessiner. Et après on passe à la période Casier où là je peux m'amuser à changer de style sur des mini histoires courtes où j'arrête pas justement de jongler avec des styles différents.
Justement, il y avait sur des airs de Java,
ouais.
Où là, pour le coup, c'est là, je sais plus quel article j'ai lu, mais c'était chaque récit se veut une expérimentation artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, une expérimentation artistique? C'est ça ce que tu dis, c'est je change de style.
Je change de style au profit de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on passe de récits des fois assez réalistes comme L'amour à la mer, où on est pratiquement dans le roman, pas photo, mais on est pratiquement dans ce registre-là, puisque c'est un hommage à un film de la Nouvelle Vague qui s'est déroulé à Brest. Et on passe dans quelque chose de plus où on joue plus avec les cases sur les... j'ai retrouvé le titre. C'est un hommage à la chanson de Léo Ferré, Les étrangers. Et après, on passe par exemple à Méliès, où là, on est dans un style, disons, pratiquement roman graphique de maintenant, enfin, c'est-à-dire très, très épuré. Et où je me permettais de jongler aussi avec Briac, on dessinait à deux sur la même histoire, un hommage à Jean Gabin et Nora de Saint-Ouen-y-Loi. Et puis Horizon, où là c'est un jeu de gaufrier, c'est-à-dire on s'amuse à bouger les cases et à composer des histoires qui se lisent en verticale, en horizontale. Et on peut les lire un peu dans n'importe quel sens. Donc là, oui, on est vraiment dans l'expérimentation, justement.
J'aimerais juste qu'on revienne sur ton style d'illustration. Là, on va repartir un petit peu sur le roman, du coup, La Fortune de Poutine. Dans le même article du Parisien que j'ai cité au tout début, tu disais avoir misé sur un trait plus réaliste qu'à ton habitude, qui rappellerait presque le dessin de presse, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre déjà par ce style-là ?
Déjà, pour aborder certains sujets dedans qui pouvaient être montrés assez cyniques ou durs, je n'avais pas vraiment envie de quelque chose de justement trop réaliste. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, je passe vraiment en dessin pratiquement lâché, sans vouloir me rapprocher d'un style de BD très particulier. Enfin, Il fallait que ça sorte pratiquement sur l'instant et pas essayer de composer des choses. Ce qui permettait de jongler aussi, d'être plus rapide, parce qu'il faut abattre les 100 pages, mine de rien. voilà. Et puis, il y a beaucoup de scènes de bureau, par exemple. Et là, c'était vraiment dur de trouver comment les changer, comment, mais on peut pratiquement rien y faire. Tout se passe dans un bureau à chaque fois. Mmh. Et donc, on avait ces scènes où qui pouvaient se montrer très, très lassantes, donc il fallait trouver des astuces. C'est pour ça qu'à la fin, on passe la discussion qui devait passer dans un bureau avec Medvedev se passe dans une salle de sport. Qu'il fallait changer de contexte, il fallait. Et donc, ça permettait de pouvoir placer plus de satirisme dans le dessin. D'avoir des instants qui pouvaient se montrer comiques. Donc, je me suis beaucoup plus amusé avec Medvedev, justement, parce qu'il a un petit côté ridicule. Il y a une scène qu'on n'a pas mis, par exemple, où il commence à raconter, il est à l'ONU et il commence à balancer que, bien sûr, on va passer des accords avec les Américains. Et quand il y a une même interview de Poutine en Russie à ce moment-là, où il le descend en flèche. Et quand il arrive, il est Katimini, et là, Poutine lui annonce pendant une séquence de pêche, ça y est, je vais te remplacer maintenant. T'as fait ton temps. Et il pratiquement dit, tu dégages, même s'il reste toujours dans les parages, mais ça reste justement le compagnon qu'on utilise, quoi.
Et pour revenir sur la colorisation, pour le coup, elle se veut effectivement très cinématographique, mise sur des ambiances à la Will Eisner, et si la couverture rappelle plus le Scarface de De Palma, les planches vont plutôt faire écho au Parrain de Coppola. On se demande pourquoi, du coup. mais du coup, ouais, là, ça me fait tout de suite me demander, tu as une grosse influence des films et des séries de la pop culture dans la BD. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi la BD et pas la réalisation, par exemple ?
Le manque de moyens.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait peut-être à terme ?
Non, pas forcément, parce que c'est... déjà, c'est le travail d'un film. C'est vrai qu'on l'attribue souvent au réalisateur, mais au final, il y a 50 personnes sur le plateau qui vont prendre des décisions. Et là, on est tout seul à prendre la décision de ce qu'on va choisir, si on a envie de faire un grand panoramique, on a le budget qu'il faut pour. Et puis le plaisir du dessin, il y a aussi ça. C'est pas le même rapport à l'image, c'est-à-dire que ouais, je pourrais faire par exemple, je prends un appareil photo et commencer à réaliser pratiquement du photomontage et m'amuser comme ça. Mais il y a tout un plaisir de construire justement une narration dans une case. Alors, c'est pas beaucoup utilisé, l'art séquentiel, on détermine très peu la BD comme ça, mais l'art séquentiel, c'est le fait de découper, par exemple, une scène en plusieurs séquences qui vont amener une narration, enfin une chute, une dramaturgie. Dans la BD, ça se passe sur le livre, mais par exemple... sur des spectacles vivants, ça va se passer différemment. Et non, donc c'est un jeu là, en travaillant sur des films d'animation, le storyboard est une étape que je trouve assez jouissive parce qu'on peut décider de tout, quoi. On amène des séquences, on amène des choses et on commence à transformer même le projet, on amène au scénariste quelque chose de différent, il va pouvoir rebondir dessus et ça va être un jeu de ping-pong. Sur un film, il y a tellement de personnes que déjà, quand on commence à... on le voit un peu en documentaire. J'ai travaillé sur un documentaire en janvier. Les décisions sont prises en amont et une fois qu'on enchaîne, on ne peut plus revenir en arrière. Sur une BD, on a les moyens quand même de revenir en arrière et de retransformer des choses. On n'est pas dans un système de production sur le long terme.
Oui, parce que là, pour le coup, il y a deux personnes aux manettes, en plus de l'éditeur, mais là, c'est un peu autre chose. Et puis, bon, peut-être je m'avance un petit peu, mais je ne connais pas grand-chose non plus à la production de bande dessinée. Est-ce que tu aurais d'autres influences dans tes illustrations, que ce soit dans des films, du coup, comme on l'a dit avec Le Parrain ou Scarface, ou avec d'autres bandes dessinées, d'autres illustrateurs de bande dessinée ?
Alors, je suis un gros fan de Will Eisner. La trilogie new-yorkaise, c'est Donc on est dans les années 50-60. Et c'est l'histoire d'une rue de New York avec plein de petites histoires qui la composent au fil du siècle. Mmh. Et donc ça s'attache à la petite histoire pour raconter une sorte de grande histoire. Et c'est très humain en fait. Le dessin est très humain, les trames sont très humains et on s'attache. C'est des histoires de la grande pomme, mais en version intimiste. Mmh. Et donc c'est trois volumes, mais qui sont assez magnifiques. Et moi, c'est plus dans ce registre-là, ouais. Déjà parce que c'est un gros maître de la BD et qu'il a su jouer avec justement la page. Quelquefois, on casse pratiquement le quatrième mur, on casse la case qu'on pourrait appeler nous franco-belges où c'est très rigoureux. Il s'amusait déjà dans les années 50 à passer d'une case à l'autre. Ses personnages n'avaient plus de fond. Il y avait beaucoup plus de liberté.
Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur cette expérience du coup de La Fortune de Poutine avec cette poussée-là un peu plus réaliste? Est-ce que c'est un style que tu souhaiterais poursuivre à l'avenir, même si bon, j'ai un petit peu une petite idée. Mais est-ce que ce retour d'expérience, est-ce que c'était un bon retour? Est-ce que tu as envie de continuer sur cette lancée-là ou pareil, changer de style, changer, toujours explorer?
Là, je suis parti sur un autre style graphique pour une bande dessinée chez Glénat avec Bertrand Gallic et Annabelle Tuan. Mm-hmm. Mais après, plus tard, ouais, revenir à quelque chose de plus. Plus Will Eisner d'un côté. Mm-hmm. Continuer à travailler ce genre de graphisme. Mais avec la liberté de pouvoir faire justement autre chose à côté, de ne pas forcément faire que de la bande dessinée. Mmh. Parce que bon, peindre en direct, ou je fais beaucoup de concerts de jazz en dessinant en direct, mmh. Avec le jazz club de l'Iroise. Et c'est se trouver devant une page blanche et t'as 2 heures pour produire et c'est projeté, donc t'as pas le choix. Mmh. Et ça, j'aime bien ce genre de défi.
Mmh. Oui, tu te cantonnes pas que à l'illustration de BD, quoi.
Non, justement, on a sorti un bouquin sur le jazz, sur les slams, sur les jams au Vauban. Mmh. Et ça s'appelle Les Haïkus du jazz chez Jorama. Et là, on est purement dans du très jeté, en fait. Il y a pas de. On pourrait pratiquement croire de l'abstraction à certains moments. Même si, quand on regarde de près, on devine les formes ou les qui se dégagent. Mmh. Mais ouais, ce genre de choses, de pouvoir peut-être piocher un peu partout. Et puis, à la fin, ça enrichit tout, en fait. Mmh. Mais en changeant le matin, en travaillant sur un sujet, l'après-midi sur un autre, ça permet de rebondir et d'enrichir chaque projet.
Bon, je crois qu'on a fait un beau tour du sujet, ça va faire à peu près une trentaine de minutes qu'on discute. On pourrait continuer très longtemps, mais je vais me permettre un rappel du coup. Le roman graphique La Fortune de Poutine, publié aux éditions Nouveau Monde, dessiné par Gilda Java et Yvonique De Noël au scénario, 22,90€, 128 pages. Peut-être est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qu'on aurait oublié de mentionner? Je crois qu'on a fait... parler de beaucoup de choses, donc c'est peut-être...
Peut-être des dates, justement, oui, ouais.
Ouais.
Librairie Morlaix, Dialogue à Morlaix le 15 juin, mm-hmm. et Lyon BD, autrement le 7-9 juin, mm-hmm. le 7 au 9 juin. Le Chien Jaune aussi, et pendant les fêtes maritimes, je serai présent, puisqu'on sort aussi Océanide 2 chez Locus Solus, avec plusieurs auteurs, un collectif, dans l'esprit de Casier, mais sur le thème de la mer.
Parfait. Et on pourra parler de tes œuvres et pourquoi pas avoir une petite dédicace.
Ouais, bien sûr.
Parfait. Et merci beaucoup, Gilda.
De rien.
Sous la pluie, où cette île déserte qui s'ennuie, je me sens comme un feu de prairie. tête écrasée dans ton lit. Comme une tempête qui fait rage en moi, un torrent noir m'emmène dans tes bras. Comme un fleuve qui coule sur une âme en Guyana, tropicale est le son de ta voix. Exotica, comme une tempête qui fait rage en moi. Exotica, qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas?
Et c'était Exotica de Lescope que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U. C'est vous qui dites la quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Gilda Java d'être venu jusqu'ici pour cette quotidienne. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain soir, toujours à 18h, toujours sur le 101.1 pour la prochaine émission et surtout la dernière de la semaine. Allez, en attendant, bonne soirée sur Radio U.